Chapitre 9. La dernière fois que M. Martin put être conduit au parloir, vague, balbutiant, méconnaissable, semblable en tout point dans sa déchéance au prophétique visiteur, au moment de se séparer de ses filles, il leva les yeux et la main, un doigt tendu, et resta longtemps dans cette attitude. Ses larmes au fond de sa gorge couvraient sa voix. Il ne trouva qu'une parole, « Au ciel, au ciel !» Il y entra sans doute. Sœur Thérèse, elle, en était sûre. Le 29 juillet 1894, il rendit l'âme au château de la Musse, où M. Guérin passait ses vacances non loin d'Évreux. Sa fille Léonie était partie pour la visitation du Mans. La pauvre Céline l'assista donc seule. Un grand espoir se mêlait à sa peine. Cette mort signifiait la rupture du dernier lien qui la rattachait à la terre. Elle allait pouvoir retrouver Marie, Pauline et Thérèse au Carmel. À la mort de celui qu'elle avait surnommé son roi, sœur Thérèse fit montre d'un grand courage. Elle se réjouit de sa délivrance. Elle le pria comme on prie un saint. Elle lui demanda de manifester par un signe, avec la permission de Dieu, la béatitude dont il jouissait et dont elle avait l'intime assurance. Ce signe, elle le précisait, serait l'entrée de Céline dans son couvent. Certaines religieuses ne voyaient pas d'un très bon œil le renforcement du parti Martin par l'arrivée d'une quatrième recrue. On sait pourtant avec quel soin Thérèse avait maintenu les distances sur le plan humain entre elle et ses sœurs. Nous avons vu que celle-ci avait fini par reconnaître de quel souci de perfectionnement et de conformité à la règle carmélite cet éloignement procédait. Il n'y avait donc pas à craindre que la présence de Céline favorisât la constitution d'une caste de famille capable et peut-être tentée de dominer sur la sainte communauté. L'opposition principale venait d'une respectable mère dont on ne nous a pas donné le nom et dont l'opinion comptait. Elle semblait irréductible. La mère prieure, Agnès de Jésus, eût été malvenue de plaider trop chaleureusement devant elle la cause de sa propre sœur. Comme les affaires se gâtaient, sœur Thérèse, à la sainte table, adressa à Dieu un appel suprême qui ressemblait à une sommation. Or, après son action de grâce, elle vit venir à elle la religieuse hostile, et celle-ci, les larmes aux yeux, lui déclara qu'elle avait réfléchi et qu'elle souhaitait vivement que la demande de Céline fût agréée. L'évêque, délivré de ses hésitations, n'eut plus qu'à statuer dans le sens le plus favorable. Monsieur Martin avait répondu à sa fille, il était vivant parmi les élus. Quelle joie de le retrouver comme autrefois et plus paternel encore, écrit sœur Thérèse à Céline le 19 août. Il n'y a pas un mois qu'il est au ciel et toutes tes démarches réussissent. C'est peut-être la dernière fois qu'elle se sert de la plume pour parler à sa chère sœur. « Viens, lui dit-elle, nous souffrirons ensemble. » Elle ajoute ces mots, « Et puis Jésus prendra l'une de nous et les autres referont pour un temps dans l'exil. » Est-ce un pressentiment ou l'effet d'une révélation explicite? Il ne semble pas que la maladie qui devra l'emporter ait déjà alerté son corps. Mais elle reprend aussitôt « Ne te fais pas de peine de ma prophétie, c'est un enfantillage. Je ne suis pas malade, j'ai une santé de fer. mais le Seigneur peut briser le fer comme l'argile. » Ceci dit, elle retourne à son noviciat. Elle se compare à un petit chien de chasse. Du matin jusqu'au soir, elle court après le gibier. La mère prieure et la maîtresse, en titre, sont les chasseurs. Elles ne peuvent se couler sous les buissons. Tandis qu'un petit chien comme elle, ça se faufile partout et ça a le nez fin. Elle veille de près ses petits lapins. Elle ne veut pas leur faire de mal, elle les lèche, mais tout en leur disant leur vérité. Elle tâche de les rendre tels que le chasseur les désire. Le 14 septembre, elle compte un petit lapin de plus. Dans le monde, il portait le nom de Céline. Au couvent, ce sera Sœur Geneviève de la Sainte Face. La porte se referme. À quel danger n'a-t-il pas échappé ? À l'occasion d'un mariage, Céline avait accepté de se rendre au bal. À contre-cœur, bien sûr, mais on sait ce qu'est un cœur de jeune fille. Et il suffit parfois d'un tour de danse pour lui faire oublier qu'il est déjà engagé d'autre part. Un beau cavalier l'ayant invité, Céline avait cédé. Mais Thérèse priait. Il arriva ceci qu'on ne peut croire. Dans le moment de prendre son élan, le couple se sentit incapable de faire un pas. Les quatre pieds demeuraient collés au parquet. Le spectacle était ridicule. Les danseurs, d'un commun accord, prirent le parti de renoncer. Cela se termina par une promenade bien sage. Céline fut désormais à l'abri des plaisirs du monde. Sa sœur lui apprendra à n'avoir plus aucun désir, sinon d'aimer Jésus à la folie. L'amour de Dieu fut exigeant, sans doute, mais comme le dit saint Jean de la Croix, si puissant en œuvre qu'il sait tirer profit de tout, même d'un bal. Dans sa tâche de direction, sœur Thérèse montre un bon sens, une fermeté, une pondération, une perspicacité naturelle et surnaturelle qui confondent. Elle a de la tendresse pour ses filles, elle les traite avec ménagement. Elle s'efforce tout d'abord d'oublier ses conceptions personnelles pour donner à chacune l'impulsion qui lui convient. Cela lui coûte, car son siège fait, elle a pu expérimenter que sa petite voix était de beaucoup la meilleure. Mais quand il le faut, elle en prêche une autre. Elle sait que Dieu y ramènera la novice par un détour. Ce qui lui fut le plus pénible, ce fut d'observer les fautes, elles-mêmes si faillibles, elle-même si imparfaite, de relever les imperfections. Il le faut cependant, elle n'en laisse passer aucune. Aussitôt découverte, elle leur livre une guerre à mort. On ne se liera pas d'une amitié humaine, même avec ses supérieurs. On ne se plaindra pas afin de ne pas être plainte. On ne sollicitera d'autrui que les services dont on ne peut absolument pas se passer. On rendra tout ce qu'on pourra sans attendre qu'on vous les demande. Il s'agit d'aimer ce qu'on n'aime pas, de supporter tout ce qu'on trouve insupportable, de tâcher de s'y plaire et de le rechercher. Sœur Thérèse avait une voisine au cœur qui remuait sans discontinuer son rosaire et ce bruit gênait son recueillement. Elle a fini par le considérer comme une musique délicate, capable de favoriser l'oraison. C'est ce qu'elle nomme l'oraison de souffrance, la plus efficace de toutes. Tout le monde est capable d'en faire autant. Sœur Thérèse sait rire avec ses filles spirituelles. Elle les gronde aussi avec justice et modération. Elle ne revient jamais sur une réprimande. Elle ne se tourmente pas d'avoir fait de la peine. Il faut que celle-ci produise son effet. Courir après l'affligée pour la consoler, c'est lui faire plus de mal que de bien. En la laissant à elle-même, on la force à s'humilier et à n'attendre que du ciel l'aide qui lui est nécessaire. Sœur Thérèse dit ce qu'elle pense et ne cherche pas à se faire aimer. Elle accepte d'être méconnue, elle accepte d'être calomniée. Franche avec ses novices, elle tient ce qu'elle soit franche avec elle. Elle encourage au besoin leurs reproches. il ne lui déplaît pas, bien au contraire, qu'elle lui découvre ses défauts. La grâce y pourvoira si son autorité en souffre. Même si elle la blesse, même si elle l'ennuie par des confidences sans intérêt, sœur Thérèse les laisse dire, double occasion de mortification. Hélas, elle a souvent affaire à des personnes susceptibles, faibles et ou obstinées. Jamais elle n'abandonne la partie. Comme Jeanne d'Arc, elle combat pour le ciel. Elle attribue à Dieu toutes ses victoires. Elle n'attribue qu'à elle-même ses insuccès. Une novice se vante, devant elle, d'avoir fait prévaloir son sentiment. « Ah, vous êtes pour le faire valoir, s'écrie-t-elle. Moi, je me garde bien de prendre ce métier. J'aime mieux répéter avec notre Seigneur, « Je ne cherche pas ma gloire, un autre en prendra soin. » À bout d'arguments, d'admonestations et d'adjurations, elle remettait entièrement à Dieu le soin de l'âme indocile ou tentée. Quand la cloche sonnait, elle arrêtait court sa leçon. La règle prise en soi avait plus d'efficacité que sa parole. Un jour, dès le signal de l'oraison, elle suspendit les confidences d'une novice et celle-ci partit dans un état profond d'abattement. Le bon Dieu vous appelle. Il veut que vous souffriez seule. Mais les bonnes paroles qu'elle leur aurait adressées, elle les adressa à Dieu, si bien que la novice, au cours de l'oraison, sentit descendre en elle une paix inconnue, et tous ses doutes s'envolèrent en un instant. Sœur Thérèse avait commencé, Dieu avait achevé l'ouvrage. Elle en vint peu à peu, à force de simplicité, à se réjouir de son insuffisance. Quand une de ses filles s'éloignait, inconsolée, son espoir grandissait au lieu de faiblir. C'était le signe qu'il fallait passer la main, que Dieu mettait en action la grâce. Elle l'aidait de ses prières et lui offrait son humiliation. Elle se fit des ennemis, il ne pouvait en être autrement. Elle souffrit par ses chères filles comme elle avait souffert par ses chères sœurs et par ses chères mères. Aigreur, calomnie, dénonciation. Elle usait ses forces à les convaincre, à les apaiser, à les désarmer. À la fin, parfois, elle y parvenait, mais sans aucune concession qui eût offensé la justice. Elle leur donnait tout ce qu'elle possédait en propre. Elle exigeait que tout fût rendu à Dieu. Elle se fit aussi des amis dévoués. Son procès de béatification en témoignera. Elle avait le don de les rassurer et de les confirmer dans l'espérance. « Celui que vous avez pris pour époux, leur disait-elle, a certainement toutes les perfections désirables. Mais si j'ose dire, il a en même temps une grande infirmité, c'est d'être aveugle. Et il est une science qu'il ne connaît pas, c'est le calcul. S'il fallut qu'il y vît clair et qu'il sût calculer, croyez-vous qu'en présence de tous nos péchés, il ne nous ferait pas rentrer dans le néant ? Mais non, son amour pour nous le rend positivement aveugle. Mais pour le rendre ainsi aveugle et l'empêcher de faire la plus petite addition, il faut savoir le prendre par le cœur. » Elle ajoutait, c'est là son côté faible. De cette faiblesse de Dieu, il ne convenait pas de profiter pour pécher librement, mais le péché commis, il fallait l'oublier après lui en avoir fait confidence, dans un grand acte généreux d'amour, afin qu'il l'oubliât aussi. Telles étaient les belles leçons par lesquelles elle venait à bout des lassitudes, des inquiétudes, des tristesses. Il n'est pourtant pas sûr que toutes les novices, même les plus intelligentes et les plus saintes, aient estimé cet enseignement à son prix. Le tour imprévu et vivant du langage de leur maîtresse leur en masquait la profondeur. Comme elle est amusante, devait-on dire. De fait, en récréation, lorsque sœur Thérèse n'était pas là, les sœurs disaient, on ne va pas rire aujourd'hui. » À la fin de la même année, 1894, au cours de la récréation du soir, sœur Thérèse, par exception, causait avec ses deux aînées, sœur Marie du Sacré-Cœur et mère Agnès de Jésus. On était au temps de Noël, c'est dire qu'on débordait de joie. Il était permis d'évoquer les Noëls passés. « Vous souvenez-vous, ma sœur, vous souvenez-vous, ma mère ?» Douée d'une extraordinaire mémoire, sœur Thérèse remuait gaiement toutes les petites choses anciennes qui lui tenaient encore au cœur, non parce qu'elle les regrettait, non parce qu'elles étaient à elle, mais parce que, jalonnant durant 15 années la route qui devait la conduire au Carmel, elle témoignait des prévenances incroyables dont elle avait été l'objet de la part de l'enfant Jésus. Sœur Thérèse comptait à merveille. Ses auditrices n'avaient qu'à fermer les yeux pour revoir la maison d'Alençon, les Buissonnet, les parents, les amis, et la petite fille espiègle, volontaire, capricieuse, mélancolique, généreuse, secrète aussi, passionnée, pieuse et réfléchie, avec ses grands yeux pères et ses cheveux blonds répandus. Cette petite fille était leur sœur, et il se pouvait bien qu'elle devint un jour une sainte. Monsieur Martin l'avait prédit. Sœur Marie, sous le charme de cette parole alerte et précise, sentant le prix des anecdotes authentiques que sœur Thérèse ranimait, peut-être même à son insu, inspirée par l'ange du bon conseil, s'écria tout à coup. « Vous devriez lui commander d'écrire ses souvenirs d'enfance, ma mère. »« Pourquoi faire, mon Dieu ?»« Cela dissiperait son cœur. » N'est-ce pas assez de parler de soi à temps perdu? Et fallait-il encore perdre du temps à en écrire? Telle était la vie de Thérèse, et mère Agnès le partageait. Mais sœur Marie insista de toutes ses forces. Piété envers le passé, reconnaissance vis-à-vis des morts, édification pour la communauté, que sais-je? Il est absolument certain qu'elle réussit à mettre en avant quelques raisons d'un certain poids, puisque, en fin de compte, mère Agnès céda et qu'au nom de l'obéissance, elle ordonna à sœur Thérèse de consacrer ce travail le peu qu'elle avait de loisir. Elle fixa même une date pour la remise du manuscrit, dans un an, le jour de sa fête, le 20 janvier 1896. Et sœur Thérèse dut s'exécuter. Auparavant, elle s'agenouilla, suppliant la Vierge de guider sa main afin de ne pas tracer une ligne qui ne lui fût agréable. Elle prit un petit cahier d'écolier et sur le pupitre mobile qu'elle posait pour écrire sur ses genoux, elle commença de rédiger de son écriture égale et précise l'autobiographie naïve qui devait révéler plus tard sa sainteté à l'univers. Ce n'était pas de la littérature. Il s'agissait uniquement pour elle de procurer à ses sœurs par le sang et au besoin à quelques autres une occasion d'aimer Dieu davantage au souvenir des biens qu'il lui avait donnés. Pour s'adresser à elle, elle prendra le ton de la petite fille d'autrefois devant ses aînés déjà grandes. Elle poussera à l'excès la naïveté. Elle prodiguera les fleurettes qui sont capables de leur plaire, les soupirs, les tendresses, les effusions, les oraisons jaculatoires qui auront la chance de les émouvoir et de les aider à prier. Les souvenirs affluent. On les cueille au passage. On revient en arrière pour les compléter. Rien qui ressemble à un plan concerté. Une âme s'épanche. C'est la faiblesse et c'est le charme de la première partie de l'histoire d'une âme qui s'arrête à l'entrée de Céline au Carmel. Mais vers la fin déjà, le ton s'aggrave, le style se dépouille. Sœur Thérèse écrira d'une autre plume et d'une autre encore la suite de ses souvenirs pour Mère Marie de Gonzague quand celle-ci sera réélue au prieurat. N'oublions pas que cette première partie s'adresse à Pauline, la petite mère, et que l'affection humaine de sa petite fille lui porte, s'y mélange sans cesse à l'épanchement spirituel. Ne nous figurons pas non plus que Sœur Thérèse disposait de beaucoup de temps pour mettre ses confidences au point. On ne la dispensa d'aucune de ses obligations régulières, peut-être une heure ou deux par jour. Elle y puisa sans doute un peu de consolation. Car la vie continue, il y a les offices, les oraisons, les exercices du noviciat, le tour, la peinture, le balayage, la composition des cantiques et de temps en temps la lessive, sans compter les contradictions. Imaginez-vous un homme de lettres qui serait ainsi surmené? Et notez bien que Sœur Thérèse se donne tout entière à son labeur, quel qu'en soit l'intérêt, la difficulté, l'importance, dans la pensée que Dieu la voit et qu'il se réjouit autant d'un coup de balai consciencieux que d'une prière fervente. On s'userait à moins. Thérèse s'use, ne craint pas de s'user. Elle aspire au néant, j'entends au néant d'elle-même. À l'âge de 22 ans, elle a atteint à la perfection des plus grands saints, et pourtant, on a peine à l'imaginer, presque personne ne s'en doute. C'est qu'on ne la voit point pratiquer la vertu, ou plutôt qu'elle semble n'avoir qu'à se laisser aller. Il n'y a aucun mérite, c'est sa nature qui l'y porte. On ne sait rien des luttes qu'elle a dû soutenir, qu'elle soutient encore à chaque instant du jour. L'égalité de son humeur les voile. Parce qu'on la voit souriante, on la croit inondée de consolation. Si Dieu nous en donnait autant, pensent les unes. Aux autres, les rares qui l'estiment, l'excès de son effacement fait peur. Elles refusent de l'admirer, car alors il faudrait la suivre. Le mieux donc est de la compter comme quantité négligeable, une petite sœur exacte et gracieuse qui réussit assez bien avec ses novices, compte à ravir, peint de jolies images et tourne d'agréables vers. Sa sainteté n'est plus en question. Thérèse a obtenu le résultat qu'elle espérait, ses sœurs l'ignorent. Et Dieu l'ignore aussi, bien qu'il soit son seul confident. Du moins, il feint de l'ignorer. C'est ce qui donne à Sœur Thérèse tant d'audace pour l'assaillir. Plus il se dérobe, plus elle le veut. Plus il la dédaigne et plus elle s'offre. Il ne faut pourtant pas exagérer la solitude où il la tient. Nous en avons pour preuve certaines confidences faites en secret à Mère Agnès, mais qui paraît plutôt se rapporter au temps où elle était novice. Oui, dans le jardin, plusieurs fois, dit-elle, à l'heure du grand silence du soir, en été, je me suis sentie dans un si grand recueillement, et mon cœur était si uni à Dieu, je formais avec tant d'ardeur et pourtant sans aucun effort de telles aspirations d'amour qu'il me semble bien que ces grâces étaient ce que notre mère, Sainte Thérèse, appelle des vols d'esprit. Et il y avait en moi comme un voile jeté entre moi et les choses de la terre. J'étais entièrement cachée sous le voile de la Sainte Vierge. Je n'étais plus sur la terre, je faisais tout ce que j'avais à faire comme si l'on m'avait prêté un corps. Grâces exceptionnelles. Thérèse vivait sur elle plusieurs jours dans une profonde quiétude et puis elle se réveillait. Le 9 juin de l'année où elle vient d'entrer, où elle rédige son histoire, 1895, en la fête de la très sainte Trinité, Sœur Thérèse, au cours de la messe, complète dans un grand élan l'offrande qu'elle fait chaque jour à Dieu. C'est son acte d'offrande comme victime d'holocauste à l'amour miséricordieux du bon Dieu. La justice de Dieu a besoin de victimes. Qui songe à se confier à son amour. De toutes parts, il est méconnu, rejeté. Les cœurs se tournent vers les créatures en leur demandant le bonheur avec une misérable affection d'un instant. Ô mon Dieu, votre amour méprisé, va-t-il rester en votre cœur ? Dieu ne sera-t-il pas heureux de ne point comprimer en lui les flammes de sa tendresse infinie, de consumer des âmes par l'amour ? Si sa justice aime à se décharger, elle qui ne s'étend que sur la terre, combien plus son amour de miséricorde, puisque celle-ci s'élève jusqu'aux cieux. Thérèse ajoute dans son cœur, « Ô Jésus, que ce soit moi cette heureuse victime !» Mais une religieuse n'a aucun droit, pas même celui de se livrer à Dieu de par sa volonté délibérée sans la permission de la mère prieure. La mère Agnès jugea-t-elle sans importance et comme superflu cet acte de donation, un enfantillage mystique ? Elle acquiesça en souriant. Pour celui est plus fort, la victime de l'Holocauste fixa sur le papier son adjuration. Elle en fit réviser les termes par un prêtre savant en théologie, comme on soumet un testament à un notaire afin que ne s'y glisse aucune clause de nullité. Et elle enferma l'acte dans le livre des évangiles qu'elle portait nuit et jour sur son cœur. La gloire de Dieu et de l'Église, le salut et la délivrance des âmes, l'accomplissement de la volonté de Dieu, tels sont ses vœux, et aussi celui d'être sainte. Mais elle sent son impuissance et elle demande à Dieu d'être lui-même sa sainteté. Elle offre les mérites de Jésus, ceux des saints et de la Vierge. Elle supplie le Seigneur de lui ôter la liberté de lui déplaire. Elle espère le ciel, mais ne veut pas amasser de mérite pour l'obtenir. Le seul amour de Dieu, le seul plaisir de Dieu, la seule consolation de Dieu, voilà son exigence unique. Elle sera la martyre de l'amour divin. Elle ajoute ces phrases sublimes. Que ce martyr, après m'avoir préparé à paraître devant vous, me fasse enfin mourir, et que mon âme s'élance sans retard dans l'éternel embrassement de votre miséricordieux amour. Je veux, ô mon bien-aimé, à chaque battement de mon cœur, vous renouveler cette offrande un nombre infini de fois, jusqu'à ce que, les ombres étant évanouies, je puisse vous redire mon amour dans un face-à-face éternel. On lit après sa signature, religieuse carmélite indigne. Elle récitait souvent cet acte. Elle le tint absolument secret, excepté pour deux de ses filles. Les autres, peut-être, en auraient ri. Or, le feu d'amour qu'elle réclamait vint embraser réellement son âme, d'une réalité mystique, d'une réalité physique, comme la flèche que le séraphin planta au cœur de sainte Thérèse d'Avila. Quelques jours après, nous dit-elle, comme elle commençait son chemin de croix, elle se sentit tout à coup blessée d'un trait de feu si ardent qu'elle pensa mourir. Elle cherche en vain une comparaison pour faire comprendre l'intensité de cette flamme. Il me semblait qu'une force invisible me plongeait tout entière dans le feu. Oh, quel feu, quelle douceur ! Une minute, une seconde de plus, mon âme se séparait du corps. Elle retomba aussitôt dans sa sécheresse habituelle. Mais l'amour l'ayant visitée, elle put vivre désormais, selon l'expression du révérend père Martin, dans l'exercice continuel de la charité, sans en éprouver les délices. Peu importait, elle n'était plus elle. Jésus vivait et éprouvait en elle. Il achevait de la détruire pour occuper la place à lui tout seul.